Cette balado-diffusion a été réalisée au Congrès national 2009 du SCFP.
J'ai dit tout à l'heure que nous avons quelque chose qui est obligatoire. Le lundi après-midi, d'après nos statuts et règlements, notre grand syndicat, le matin est consacré au président qui doit rendre des comptes au Congrès. Et l'après-midi, c'est au tour du secrétaire trésorier d'en faire autant. J'ai le privilège extraordinaire de faire toutes sortes de choses aux côtés de confrère Claude Généreux depuis 6 ans, à temps plein, lui et moi. J'ai dit à Claude, j'ai dit à la mère de Claude, je pense que je vois Claude plus que ma famille, et je ne suis pas certain non plus. Mais je dois vous dire que notre syndicat a vraiment quelqu'un qui est robuste au timon quand il s'agit de gérer votre argent, votre capitation, vos cotisations. Et c'est un syndicaliste chevronné qui appuie toutes nos campagnes, toutes nos luttes, toutes nos actions locales d'un bout à l'autre du pays. J'ai le grand privilège, confrère et consoeur, de demander à Claude, mon ami, mon confrère, Claude Généreux, qui va rendre des comptes. Claude Généreux.
Thank you.
Merci. Merci.
Je vois nos consoeurs et notre confrère de Canjet passer devant nous. Devant moi, c'est... Wow, hein? C'est toute une montagne russe émotionnelle là, qui se produit. On a entendu la jeune Kyra, nos consoeurs, notre confrère de Canjet. On connaît maintenant Fred Taylor, la section de la 479. Il va savoir qu'on ne doit pas perdre notre lettre, de notre cocarde. C'est ça un congrès. C'est une bête qui est vivante. C'est nous, ça, la bête. J'aimerais savoir, d'ailleurs, Paul, de fait un petit oubli. Paul a une habitude d'entrée de jeu. Il nous demande, à toutes les personnes qui sont dans la salle, qui en est à sa première participation au congrès biennal du SCFP national? Voulez-vous lever votre main, s'il vous plaît? Les photographes inclus. Tiens, oui, mieux, Paul nous suggère. Levez-vous donc debout, on va mieux vous identifier. La première participation au congrès du SCFP national. Hey! Wow! Vous êtes le renouvellement du SCFP, la continuité du SCFP. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi d'être ici aujourd'hui. Et bon après-midi. Bon après-midi, consoeurs et confrères. Bienvenue à Montréal. Lucie et d'autres vous ont souhaité cette bienvenue. Alors, vous savez, je suis biaisé par rapport à Montréal. Je viens de Montréal. J'arrêterai cela. Lucie et Michel ont fait le cas de Montréal. Je suis vraiment heureux, moi aussi, d'y être, de me retrouver avec tant de membres du SCFP, de tout le Canada, d'à travers tout le Canada. C'est le plus grand congrès national du SCFP de toute notre histoire. Lorsque nous commençons à être fatigués et être un peu grogneux envers l'un l'autre parce qu'on va être un peu fatigués, bien, nous serons plus de 2500 personnes rassemblées dans la salle. C'est vraiment extraordinaire. Puis ça va fonctionner. On va opérer. On va décider de la voie vers l'avant. Est-ce que c'est Montréal, la ville? Je sais qu'elle est très belle, mais ça explique seulement qu'en partie ce que vous voyez aujourd'hui, d'être revenu en si grand nombre. Moi, ce que je pense, c'est que ça va plus loin que ça, bien sûr. Je pense que vous êtes ici parce que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Après tout, nous sommes des militants, nous sommes des militantes. Alors, avec cette récession mondiale, nous sommes ici prêts à nous retrousser les manches et à nous mettre au travail. Et prêts à renouveler notre détermination à décider de notre avenir. Nous parlerons beaucoup d'économie cette semaine. C'est immanquable parce que c'est un sujet vraiment d'actualité et pour de bonnes raisons. L'économie nous touche tous et toutes, toujours, mais cette fois-ci, d'une façon ou d'une autre, elle nous a touchés étrangement. Et bien que les économistes affirment que la reprise est pour bientôt, elle n'aura pas beaucoup d'effets, du moins bénéfiques et positifs pour nous, les travailleurs et les travailleuses. Parce que les économistes qui prédisent que la reprise est basée sur les marchés boursiers uniquement se trompent. Ils ne parlent que de cela, d'ailleurs, la plupart d'entre eux et d'entre elles. L'effondrement financier d'août 2008 concernait, d'ailleurs, les marchés financiers. Et jusqu'alors, ces marchés-là allaient très bien. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, n'est-ce pas? Nous savons bien que ça ne se limite pas à la bourse qui est à Toronto. En mai 2008, j'aimerais revenir juste un petit peu avant l'effondrement de ce cours boursier-là du mois d'août 2008. Parce qu'on a oublié ça. En mai 2008, quelques mois donc à peine avant que notre crise économique éclate, Statistique Canada signalait que pour les 25 années qui étaient comprises entre 1980 et 2005, les revenus des plus riches avaient augmenté de plus de 16 % dans ces 25 années-là. L'organisme de plus affirmait aussi que les revenus de ceux qui se trouvent dans la tranche moyenne sont restés exactement les mêmes. Je pense que c'était 23 $ ou 21 $ d'enrichissement sur 25 ans. Donc, on peut dire exactement les mêmes en une génération. Ce qui est pire, c'est que pour les Canadiens et les Canadiennes les plus pauvres, les revenus ont chuté pendant cette même période-là de plus de 20 %. Alors, pendant que le Canada vivait 25 années de croissance économique, l'écart entre les riches et les pauvres s'élargissait. Puis la crise économique, je vous parlais de chiffres de mai 2008, on revient à la crise économique, la crise financière d'abord au mois de août 2008, a éclaté. Une crise causée par les riches qui jouaient avec les marchés, comme au Monopoly, hein, les marchés financiers. Autrement dit, une crise qui était causée par la cupidité. Pour les plus pauvres d'entre nous, la récession a tout simplement rendu les choses encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient. Pour les travailleurs et les travailleuses, la crise s'est traduite par des pertes d'emplois et une incertitude croissante, en particulier pour les revenus de retraite. Et Paul en a déjà parlé un petit peu ce matin, on en parlera pendant le congrès. Elle a immensément limité les gains salariaux réels et la résistance que nous avons offert quant aux concessions à la table qui étaient placées sur la table de négociation par nos employeurs. Sans parler de menaces renouvelées, de privatisation, de sous-traitance, à toutes les sauces. Mais, confrères et consœurs, que sommes-nous? Nous sommes le SCFP. Et cela veut donc dire que nous nous défendons, nous savons nous défendre et nous nous défendrons pour continuer à lutter pour recevoir ce que nous méritons. Des conditions de travail justes, équitables, décentes. Et au cours de la dernière année, beaucoup, beaucoup de membres du SCFP ont été obligés de tenir des votes de grève. Paul en a mentionné beaucoup ce matin. Beaucoup ont dû avoir recours à ce moyen d'action pour forcer l'employeur à négocier et à négocier équitablement pour qu'ultimement on puisse en arriver à une entente, comme la section locale 301, ici même à Montréal. Alors, après 2 ans de négociation, ses consoeurs et ses confrères luttent pour les services publics ici même à Montréal. Il n'en va pas juste de leurs conditions de travail dans l'abstrait. Il s'agit donc des services publics qui sont dispensés. Et ce n'est pas tout. Ils se battent aussi contre la corruption et le copinage. Ça, c'était des mots qu'on faisait attention jusqu'à il n'y a pas trop longtemps parce qu'on avait un petit peu peur des poursuites. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça concrètement qu'il s'agit, la corruption et le copinage. Alors, nous devons les soutenir tous et toutes, non pas seulement qu'avec notre argent, mais avec nos jambes. Et je vous annonce que pour ce faire, pour les appuyer avec nos jambes, nous nous joindrons à eux sur leur ligne de piquetage, mercredi, pour leur 2e journée de grève tournante. Ce mercredi, vous amenez vos parapluies, vous amenez vos imperméables. Nous ne vous demanderons pas de l'argent parce que vous n'aurez pas besoin d'envoyer l'argent bien loin. On va aller à l'hôtel de ville 3 rues d'ici et c'est comme ça qu'on va être en solidarité, les aider à dénouer l'impasse de la négociation. Mais on en reparlera. La section locale 873, en Colombie-Britannique, où 3 500 ambulanciers paramédicaux de toute la province ont érigé des piquets de grève dès le 1er avril dernier. Même si on leur a enlevé leur droit de grève, parce que les services essentiels sont tels que c'est un droit de grève qui est fictif, ils organisent des activités publiques, des rassemblements partout dans la province pour attirer l'attention sur cette crise, sur la crise que nous vivons, pas seulement qu'eux, que toute la population de Colombie-Britannique vit et qui sévit dans les services paramédicaux. Une crise causée par le sous-financement, les faibles salaires, les mauvaises conditions de travail qui font en sorte justement qu'il y a un exode, les gens quittent le travail, la profession. Nous avons toujours refusé les concessions, je vous disais tantôt. En conséquence, depuis janvier dernier seulement, janvier 2009, plus de 30 000 membres du SCFP ont fait le sacrifice ultime en cessant de fournir leurs services et en vivant d'indemnités de grève de notre Caisse générale de grève. Et ils l'ont fait pour défendre ce qui leur appartient, pour défendre les services publics, et pour vous défendre, moi et vous. Et je les remercie. Alors, je leur dis merci à tous ces membres de la section locale 3903 de l'Université York. Et je crois que vous êtes dans cette partie-ci de la salle. Vous devriez vous lever pour qu'on vous reconnaisse. Les membres de la section locale 3372 d'Aramark Canada. J'aimerais ça vous voir debout dans la salle. La section locale 2254, dont Paul, tu parlais ce matin, de la bibliothèque de Grand Forks en Colombie-Britannique. La section locale 2096 de la clinique médicale de Brandon. Je crois que vous êtes ici. La section locale 82543 à la ville de Windsor. Nous avons entendu parler aujourd'hui. Ça continue comme ça. Section locale 1000, les travailleurs de l'énergie situés à Ingersoll en Ontario. La section locale 416 et 79 à Toronto. La section locale 1521, l'Association pour l'intégration communautaire de Lanark. et je m'excuse pour la prononciation. Et puis, la semaine dernière, on arrive en congrès, la vie continue malheureusement, parfois mal. La semaine dernière, s'ajoute aussi la section locale 719, la ville de Woodstock au Nouveau-Brunswick, qui a été mise en lock-out. La section locale, nos membres ont été mis en lock-out. Alors, vous tous, je vous dis merci pour votre courage, pour votre détermination et votre sacrifice, parce que vous avez lutté pour ce qui est juste. Vous luttez encore pour ce qui est juste, au nom de nous tous, des travailleurs et des travailleuses. Et cela explique le climat de négociation. Actuellement, il est parmi les plus durs que nous ayons connus depuis de très, très, très nombreuses années. Et la situation est la même d'un bout à l'autre du pays. Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Graham a décrété le dénouement des négociations dans le secteur public en imposant sa politique fiscale. Tout bonnement, pas en étant à la table de négociation, il est arrivé avec une politique fiscale. Le dictat en question, aucune hausse salariale pendant 2 ans. 2-0. Ou 0-0. Colombie-Britannique, le premier ministre Campbell a été allé encore plus loin. 4 ans de 0. J'ai bien dit ça, 4 ans 0. Je ne sais pas si c'est Graham qui l'a influencé ou c'est les 5 anneaux olympiques qui s'en viennent à Whistler puis qui voulaient arriver à 5 anneaux olympiques. Mais nous, on ne va pas jouer de ces olympiques-là, des olympiques de la médiocrité. Ça équivaut carrément, et j'apprécie qu'en Colombie-Britannique, on apprécie cet humour un peu sinistre. Mais cela équivaut carrément à suspendre notre droit de fondamental à la négociation. Et vous pouvez être certain que ce genre d'attaque-là contre les travailleurs, les travailleuses, va se continuer, même si les marchés boursiers ont commencé à remonter. Ils remontent, ils redescendent, ils remontent, ils redescendent, mais cette reprise-là, elle va aider sans doute les plus riches à retrouver leurs revenus qui étaient élevés avant la crise. Mais est-ce que vraiment cette reprise-là va colmater les brèches dans les régimes publics de retraite, je vous demande? Est-ce qu'elle réduira l'écart entre riches et pauvres qui existait et qui s'est creusé dans les 25 dernières années? Est-ce qu'elle assurera la permanence des services publics? Je crois que non. Et la hausse du prix des actions n'assurera rien de tout cela dans les marchés boursiers. Pas si nous nous mettons au travail. Alors, il faut s'impliquer, il faut s'y mettre. Et par nous, j'entends le SFP. Le SFP, c'est ce qu'il fait de mieux. Et ça, c'est nous tous et nous toutes. Le SFP, avec ses membres, avec son personnel qui travaille collectivement, à augmenter les salaires, à obtenir la sécurité à la retraite, à protéger les services publics, à lutter contre la privatisation et la sous-traitance, à travailler à l'atteinte d'une véritable égalité et d'un environnement qui soit durable. Alors, je vais vous faire pratiquer votre gymnastique de l'après-midi. On va changer nos appareils de translation, de traduction. Sisters and brothers.
Confrères et consoeurs, ce n'est pas un rapport d'un prophète de malheur. La route qui est devant nous sera certainement chaotique. Mais aujourd'hui, je veux surtout vous parler de militantisme, notre militantisme, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes solides, nous sommes forts. Nos trois caisses sont dotées de ressources voulues pour nous permettre d'avancer sur cette route chaotique. Et je commencerai mon intervention aujourd'hui en vous disant à vous tous, les militantes et militants, une chose très importante, c'est que l'argent, ça parle. Et oui, l'argent, ça parle. J'imagine d'ailleurs que je ne vous apprends rien. Je n'ai pas oublié qu'aujourd'hui, c'est la journée de la reddition de comptes. C'est la journée où je dois vous faire part de nos activités financières des deux dernières années, comme le prévoient les statuts. Et j'ai la réputation de prendre mon temps lorsque je présente mes rapports. Et c'est curieux, il y en a plusieurs qui rigolent. Ben, c'est peut-être des nouveaux délégués qui ne me connaissent pas. Mais on peut dire, dans ces conditions, que l'argent parle beaucoup. Mais sérieusement, ma responsabilité, c'est de vous fournir le plus d'informations possible et d'être aussi transparent que possible. Le rapport et les états vérifiés que je vous soumets sont beaucoup plus que de simples chiffres sur une page. Sur nombre de pages, devrais-je dire. Ce compte-rendu est une image de notre solidarité, de notre force syndicale et de nos valeurs. Ça donne un aperçu de notre avenir. Ça raconte toute une histoire. Alors, comme je le disais, l'argent parle. Cela montre quelle est notre force au reste du monde. Et quelle est l'ampleur de cette force? En 2008, le total des revenus du SCFP, en combinant les trois caisses, générale, grève et défense, s'élevait à plus de 160... La caisse générale, la caisse de grève et la caisse de défense, ensemble, ça fait plus de 166 millions de dollars. C'est beaucoup de pouvoir de dépenser. En 2007, le total des revenus s'élevait à plus de 158 millions de dollars, ce qui signifie, je ne vais pas vous ennuyer avec trop de chiffres cet après-midi, donc je vais essayer d'équilibrer tout ça et de vous donner les chiffres les plus importants. Cela veut dire en fait qu'il y a eu une augmentation de l'ordre de 8 millions de dollars entre 2007 et 2008. Et la croissance de nos ressources de base, était aussi évidente. Elle parle d'elle-même. Elle montre notre efficacité au monde parce que nos finances ont profité beaucoup. Depuis 2001, nous avons accru nos revenus de l'ordre de 30 %. Ce facteur le plus important dans la croissance de nos revenus, c'est surtout lié aux gains salariaux, ce qui montre que nous sommes efficaces à la table de négociation. Ça veut dire que vous êtes très efficaces à la table de négociation. Et aujourd'hui, notre effectif s'élève à 600 000 membres, comme Paul nous l'a dit un peu plus tôt. C'est un record au Canada et dans le monde du travail. Nous avons fait donc beaucoup de chemin depuis notre congrès de fondation en 1963, alors que nous étions à peine 70 000 membres. Depuis les années 70, nous avons accueilli à peu près 100 000 membres par décennie. En 1980, on était rendu à 250 000 membres, pas dollars, membres. En 1990, dans les années 90, on a dépassé les 400 000. À la fin du siècle, c'est-à-dire au début de celui-ci, en 2000, donc, nous avons atteint 500 000. Et maintenant, en 2009, nous en sommes à 600 000 membres. Une croissance bien régulière. Mais les chiffres détaillés figurent dans mon rapport, particulièrement pour les deux dernières années. Donc, nous augmentons nos effectifs. C'est l'expansion. Mais que faisons-nous de notre argent? C'est ça qui, en fait, en dit long sur notre histoire. Nos dépenses montrent au monde qui nous sommes et quelles sont nos valeurs. Le CFP a toujours été un syndicat social, c'est-à-dire que nous faisons notre travail en faveur de changements sociaux progressistes aussi sérieusement que notre travail à la table de négociation. Avec la croissance des membres, nous avons dû consacrer nos ressources à développer notre capacité de servir les membres et aux fonctions administratives et opérationnelles nécessaires pour maintenir le cap. Et jusqu'à maintenant, nous n'étions pas en mesure de financer de façon significative le militantisme des membres. On le faisait, mais de façon relativement marginale. Par exemple, en 1963, les seuls militants à temps plein au SCFP, c'étaient les membres du personnel. Il n'y avait aucun président de section locale à temps plein. Mais les choses ont évolué progressivement dans nos 46 ans d'existence. Aujourd'hui, nous sommes très différents. Nous sommes plus nombreux et plus complexes. Nous devons et nous voulons maintenir le militantisme. Parce que ça, ça paye, ça marche. Je suis donc fier de passer en revue les changements que nous avons apportés à nos activités au cours des deux dernières années pour favoriser cette autre dimension du SCFP, le militantisme des membres. Traditionnellement, l'argent de notre militantisme, nos campagnes, notre action politique, cela vient toujours de notre caisse nationale de défense. Mais depuis deux ans, nous avons apporté certains changements structurels qui tiennent compte du fait qu'une bonne partie de ce travail s'inscrit dans nos activités quotidiennes. Ce n'est rien de spécial. Ça ne répond pas à une crise. C'est notre travail fondamental, notre travail de base. Ainsi, nous avons transféré une partie importante du financement de notre militantisme à la Caisse générale, notre caisse de fonctionnement. C'est comme l'action politique. Je vais vous donner quelques exemples. C'est très clair pour tout le monde. Nous savons qu'il est crucial de jouer un rôle actif sur la scène politique pendant et entre les élections pour obtenir de meilleures politiques publiques, qu'il s'agisse des lois du travail, des services publics, de la justice économique, des droits de la personne ou de l'égalité, etc. Au cours des deux dernières années, nous avons alloué 1,15 million de dollars aux dépenses électorales dans notre caisse générale. De même, nous avons prévu 2,5 millions de dollars par année dans notre caisse générale pour les campagnes contre la privatisation. Au dernier congrès national, j'ai annoncé un budget de 5 millions de dollars sur deux ans pour lutter contre la privatisation. et contre la sous-traitance, ceux qui menacent tout le monde. Nous avons placé cet argent dans la caisse générale pour tenir compte du fait que nous devons toujours lutter contre la privatisation. Nous luttons dans chaque province et nous luttons chaque année, pour que ce soit pour empêcher les partenariats publics-privés ou pour résister à la sous-traitance. C'est une lutte qui fera toujours partie des luttes de base du SCFP. Donc, nous en tenons compte dans nos activités quotidiennes, comme pour notre dotation en personnel et nos coûts d'immobilisation. Nous avons aussi augmenté le montant consacré à nos divisions provinciales pour leurs activités. Nous avons commencé par offrir un financement à nos divisions provinciales dans le courant des années 90 afin que nos instances politiques dans les régions puissent disposer des ressources nécessaires pour faire leur travail essentiel. En 1998, le montant total pour les divisions était de 150 000 $ fournis par le national aux 10 divisions. Vous pouvez faire les divisions vous-même. Au cours des 10 années qui ont suivi, ce montant a considérablement augmenté. En fait, les hausses les plus importantes ont eu lieu depuis 2 ans. Donc, en 2007, les divisions provinciales ont reçu près de 700 000 $ et en 2008, près de 800 000. Aujourd'hui, le budget total consacré à cette dépense se monte à 942 059 $, plus de 6 fois le montant de l'allocation de 1998. On peut dire que c'est pratiquement 1 million de $ maintenant. À l'époque, seules 2 divisions provinciales sur 10 avaient des présidents libérés à plein temps. Maintenant, alors que je vous parle, il y a 9 divisions qui ont un dirigeant à plein temps. Je crois que cette augmentation de financement est cruciale parce qu'elle permet d'accroître l'efficacité de notre action politique, notre représentativité, mais surtout sur le terrain, dans les provinces. En 2008, nous avons accumulé un surplus de 4 740 000 $. Compte tenu des défis que nous pouvons prévoir et devant les attaques croissantes contre nos droits de négociation et nos conventions collectives, le Conseil exécutif national a voté en faveur de la création d'un fonds de riposte spécial de 2,5 millions de dollars. Ce fonds de riposte doit servir lorsque des mesures gouvernementales ou des lois menacent les droits de négociation des membres du SCFP. Exactement comme ce qui se passe à l'heure actuelle au Nouveau-Brunswick. On en a déjà parlé. Et je tiens à être très clair sur ce point. Ce fonds ne sert pas aux négociations difficiles. C'est vrai qu'il y a des négociations difficiles. Nous avons d'autres sortes de financements prévus à cet effet. Il sert à nous amener jusqu'à la table de négociation lorsque des employeurs du secteur public tentent de nous priver de ce droit fondamental qui est le nôtre. Avant, il n'y avait pas de financement consacré spécifiquement à cet effet. Maintenant, il y a 2 millions de dollars, 2 millions et demi, dans la caisse générale, réservée en permanence à cet effet. Ces changements ont servi également à renforcer la caisse de défense parce que la demande des ressources de la caisse nationale de défense continue à augmenter. Et ça n'arrête pas, ça augmente tout le temps. Et par conséquent, on veut pouvoir répondre à la demande au fil du temps. Là, on va vous faire une petite gymnastique des oreilles. Vous allez mettre vos écouteurs.
De la Caisse générale, je vais vous parler de la Caisse nationale de défense. La Caisse nationale de défense s'établissait, son revenu, à 6 904 000 $ et en 2008, il était, ce revenu, à 7 265 millions de $. Alors, pour ces 2 années, les dépenses ont été supérieures au budget d'un peu plus de 25 000 $ en 2007, et de près de 117 000 $ en 2008. Donc là, on était en léger déficit. La Caisse nationale de défense ne compte que 4 catégories de dépenses maintenant. Les programmes de campagne à frais partagés, les grands projets de recrutement, les priorités stratégiques nationales et les priorités stratégiques régionales. Ça, c'est un petit peu de jargon dans le SFP. Je m'en excuse pour les nouveaux délégués, mais c'est comme ça qu'on a baptisé nos bébés, si vous me passez l'expression. Alors, ces 4 catégories, cependant, englobent une très grande variété d'activités politiques de tout genre, de projets de recrutement, de militantisme des membres, d'initiatives de soutien communautaire et international. Par exemple, 170 organismes à charte du SFP ont entrepris des campagnes réussies grâce au financement de notre programme de campagne à frais partagés au cours des 2 dernières années. Chaque dollar dépensé par un organisme à charte est appariée par notre programme de campagne à frais partagés. Donc, en 2007, le budget du programme de campagne à frais partagés avait été fixé à 1,7 million de dollars. Cependant, nous avons dépensé 1,95 million de dollars, tout près de 2 millions. En 2008, l'année suivante, ce budget a été augmenté à 2 millions, espérant atteindre ce que nous pensions que nous dépenserions. Mais nous avons dû dépenser 2,4 millions de dollars à consacrer notamment aux campagnes à frais partagés. Donc, il va sans dire cependant que c'était de l'argent qui était sacrément bien dépensé. Parce que grâce à notre programme de campagne à frais partagés, nous avons lutté avec succès contre la sous-traitance dans les municipalités. Nous avons empêché la réalisation de PPP dans des nombreux hôpitaux, dans des écoles. Nous avons empêché la fermeture d'une garderie, pour ne nommer que quelques-uns de ces nombreux exemples inspirants. Et nous avons aussi mené de nombreuses campagnes publiques efficaces pour soutenir les négociations de nous tous et de nous toutes dans nos différents secteurs, dans nos différentes provinces. Pour 2009, nous avons aussi donc le total du programme de campagne à frais partagés à 2,3 millions de dollars. Alors, ça commence à faire bien des chiffres. J'ai essayé de faire ça d'une façon ordonnée, la Caisse générale en premier, la Caisse de défense, pour arriver tantôt à la Caisse de grève, notre Caisse nationale de grève. Le financement consacré, pour terminer sur la Caisse de défense, le financement consacré aux priorités stratégiques régionales, celui-ci, va particulièrement directement aux plus grandes divisions provinciales pour couvrir 100 % de leurs dépenses, de leur financement, de leurs initiatives qu'ils ont identifiées comme étant les initiatives prioritaires. Par exemple, en Colombie-Britannique, cet argent appuie les campagnes pour des collectivités fortes. Et puis ça marche. La lutte du syndicat des employés d'hôpitaux contre la sous-traitance. Puis ça marche. En Ontario, le financement a servi à entreprendre diverses campagnes, notamment comme l'exposition mobile sur les PPP, la campagne contre la privatisation des soins de santé, les campagnes sur l'égalité et la santé et sécurité du travail. Ça marche, là aussi. Et ici, au Québec, l'argent a été utilisé pour lutter contre les visées pro-privatisation et antisyndicalistes du gouvernement Charest. Là aussi, ça marche, mais pas encore assez vite, Lucie. Mais ce n'est pas à faute de Lucie, ce n'est pas à faute du SFP Québec. En 2007, en 2008, nous avons consacré autour de 1,3 million de dollars à ce financement de ces initiatives que je viens de nommer dans ces trois provinces-là en particulier. Les priorités stratégiques nationales de la Caisse de défense ont reçu par ailleurs, au-delà de ce 1,3 million de dollars-là, un 1,4 million de dollars de plus pour chacune des dernières années, des deux dernières années. Une bonne partie de l'argent ayant servi à financer la mise en œuvre de notre politique d'orientation stratégique adoptée au dernier Congrès national. Ça aussi, on en a plein la bouche lorsqu'on dit ça, mais c'est vraiment notre plan de travail. Le plan de travail qu'on va développer d'ailleurs pendant trois jours sur le plancher du Congrès sera financé. Il y aura des ressources. Il ne s'agit pas juste de voter dans l'abstrait des actions. Alors, c'est ce que nous avons fait au dernier Congrès et nous avons mis 1,4 million de dollars là-dessus. Alors, consoeurs et confrères, les dépenses de la Caisse de défense ont beaucoup, beaucoup changé depuis six ans. Nous avons restructuré, je vous avais dit tantôt, le financement en quatre grandes catégories, avec un financement qui est dédié pour une plus grande transparence, une meilleure planification et une mise en œuvre plus efficace de l'orientation qui est décidée par vous tous et vous toutes lors de notre congrès. Le dernier congrès va sans dire, et nous ferons la même chose pour le prochain congrès. Ainsi, lorsque l'argent de la Caisse de défense parle, je vous disais tantôt, Money Talks, bien, lorsque l'argent parle, il parle à qui? Il parle aux femmes, aux hommes politiques, aux employeurs, il parle au public. Il dit qu'il faut investir dans les services publics, il faut investir dans les communautés, dans l'égalité et dans la justice sociale. Tant ici au Canada qu'ailleurs dans le monde, partout dans le monde d'ailleurs. Il dit aussi que le militantisme est au cœur de ce que nous faisons. Yes, Money Talks. I'll switch again in English.
C'est vrai que l'argent, ça parle. Et puisque je parle, en passant, qu'on est en train de parler d'argent, non seulement on parle d'argent, mais l'argent, ça parle. Je vous ai parlé déjà des deux premières caisses. J'arrive à la troisième caisse, la Caisse nationale de grève. Là aussi, on en a beaucoup parlé cette année. Mon rapport au Congrès rencontre des deux dernières années. Mais je sais que tout le monde dans la salle veut connaître l'impact des longues grèves qui ont eu lieu jusqu'à maintenant cette année. Donc, vous avez 2007-2008, mais vous voulez connaître 2009. Eh bien, en résumé, on peut dire que notre caisse de grève reste solide avec un solde de plus de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, bien sonné. Et après avoir soutenu plus de 30 000 membres cette année seulement. En réalité, on peut même dire 48 000 membres depuis le dernier congrès. en mars. Donc, la caisse de grève s'approchait petit à petit de la barre des 40 millions de dollars. Puis, pour la première fois dans notre histoire. En fait, ça nous montait presque à la tête. 40 millions de dollars, on n'avait jamais rêvé d'avoir tant d'argent. Puis en juin, le solde est retombé à 35 millions de dollars et maintenant, on est autour de 21 millions de dollars. Tout ça pour dire qu'il faut faire preuve de prudence lorsque l'on songe à utiliser cet argent à d'autres fins, en particulier dans le climat de négociation qui est le nôtre à l'heure actuelle, parce que ça peut très bien baisser de moitié, très rapidement. Mais c'est de l'argent bien dépensé pour appuyer les membres qui étaient en grève, et pour vous comme pour moi. Et en même temps, nous avons remonté notre fonds de grève, et tout ça est fort utile. Et tout cela parle de notre force collective, et c'est vrai que l'argent, ça parle. Et ça peut changer le monde. Et je veux dire le monde entier. En plus des trois caisses qui soutiennent notre travail, j'ai dit qu'on avait trois caisses. Mais en fait, il y a une quatrième caisse, il faudra que je vous en parle. Une caisse plus petite, elle devrait être... Je vais vous en parler un peu. Il y a un fonds qui est le fonds pour la justice mondiale. Et notre fonds de justice mondiale appuie les travailleurs de tous les coins de la planète. Comme vous, qui ont besoin d'appui, comme les travailleurs qui luttent contre la privatisation en Colombie et aux Philippines et dans bien d'autres pays où c'est une question de vie ou de mort, littéralement. La privatisation, pour eux, c'est la mort. Moi, je suis trésorier. Je vous donne souvent des chiffres en dollars. Vous avez entendu le rapport des lettres de créance ce matin. Vous avez vu combien nous étions, vous avez entendu? Vous vous souvenez du chiffre, combien on était? Autour de... c'était 1208, je crois. Eh bien, quand Paul est allé en Colombie avec d'autres syndicalistes, on nous a dit que 1200 activistes, militants, paysans, syndicalistes avaient été tués en 10 ans. C'est donc un chiffre malheureusement très triste et sinistre. Et il faut trouver une nouvelle génération, pratiquement, sans transition, pour continuer le travail et continuer le combat. Et c'est pourquoi c'est si important. Et maintenant, en ce moment même, en Ontario, au Labrador, les métallos sont en grève contre Vale Inco. L'employeur importe des briseurs de grève pour essayer de priver les travailleurs de leur pouvoir. Et en même temps, il importe des normes de travail plus faibles, plus basses. Donc, il faut y résister à la fois ici et comme dans le reste du monde. Et ce sont des normes qu'on essaie ainsi d'abaisser pour le Canada. Autrement dit, on essaie de revenir en arrière ici comme dans le reste du monde. Et c'est pour ça qu'il est si important d'avoir ce fonds. L'an dernier, 1% seulement des sections locales du SCFP ont contribué au Fonds pour la justice mondiale. Ça représente 12 de sections locales, dont plus de la moitié sont à l'est d'ici. L'est, c'est dans mon dos, c'est-à-dire à l'est du Québec. Le bloc de l'est, comme on dit au SCFP souvent. Merci d'ailleurs, merci à toutes les sections locales qui ont cotisé. Mais il faut améliorer ce bilan. Et j'invite toutes les sections locales du SCFP à accorder leur appui à notre Fonds pour la justice mondiale. Il faut que l'on ait de meilleures statistiques à cet égard.
Dans nos convictions, les raisons qui nous motivent, la force de nos convictions, je disais, les raisons qui nous motivent, notre militantisme et le désir de bâtir un monde meilleur, un monde plus juste. Ça vient de nos cœurs, ça vient de nos âmes. Et nous avons besoin d'une base solide pour nous appuyer, une base cohérente. Avec tout ce que nous voulons, avec tout ce que nous pouvons accomplir. Alors, je crois qu'il est crucial de vivre nos convictions. Des convictions comme la protection de notre environnement et de faire ça de façon très concrète. Depuis 2 ans, nous avons réussi à diminuer notre impact sur l'environnement, en plus de nous fixer des objectifs atteignables pour l'avenir. C'est de cela dont il s'agit, des objectifs atteignables et de les atteindre. Par exemple, nous avons apporté des changements à notre parc automobile, la flotte automobile, et à compter de 2008, nous avons offert aux membres du personnel qui le souhaitaient un modèle hybride qui pourrait conserver l'énergie et réduire nos émissions et ultimement participer à cet effort mondial-là. Aussi, cette année, nous nous sommes efforcés de réduire notre impact sur l'environnement en investissement dans la technologie. Ben oui, ça nous aide, ça. Dans la technologie afin de mieux répondre à nos besoins organisationnels pour les réunions, grâce notamment au recours aux téléconférences, et nous le ferons de plus en plus. Pour ce congrès, nous avons retenu les services d'une experte conseil que je voyais à l'arrière de la salle, et là, je ne la vois pas, Susan Baddell. C'est une membre du SFP, en passant, j'aimerais bien vous le dire, une experte, mais que c'est une membre du SFP, membre de la section locale 2626, Université d'Ottawa. Je ne sais pas si elle est dans la salle, Susan, mais qui nous a fait bien avancer pour prendre le virage vert dans nos activités du Congrès. Ainsi, il y a moins de papier, et le papier que nous utilisons est recyclé à 100%. Tout ce que vous voyez qui est entre vos mains est recyclé, sera recyclé, il est recyclable. Par exemple aussi, nos sacs de congrès sont faits de chanvre. On est juste le lundi, je vous le dis, essayez pas de fumer. Parce que ça va aller mal. Ils sont sans teinture, donc ça serait pas toxique, mais je pense que ça donnerait mal à la tête. Ils sont entièrement biodégradables. Vous savez peut-être pas que Paul est un jardinier à la section locale 500 à Winnipeg. Et il m'a demandé, s'il est biodégradable, est-ce que je peux faire un trou, le mettre dans le sac, puis ça va aider à faire de l'engrais pour faire pousser les tomates. Je l'ai fortement conseillé de ne pas faire ça. Mais c'est biodégradable. Nous avons aussi acheté des crédits de carbone pour tous les membres du personnel qui sont venus ici en avion et en train. Ce n'est qu'un début, mais comme on disait dans les années 60, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, mais en même temps, nous avançons. Nous avançons de bien des manières. Nous avançons aussi dans notre programme d'égalité en emploi. Nous travaillons avec les syndicats de notre personnel à accroître la diversité dans nos rangs. Ces efforts reflètent nos valeurs en tant que syndicalistes progressistes. Nous voulons représenter la diversité de nos membres, tout en respectant le droit des membres du personnel à collaborer à l'atteinte de nos objectifs en matière d'égalité. Alors, nous ne voulons pas le faire seul et unilatéralement. Dernièrement, nous avons mené un nouveau sondage auprès de notre personnel et nous avons travaillé ensemble à établir de nouveaux buts à court et à long terme. Alors, consoeurs et confrères, ces mesures renforcent notre base aussi sûrement que la consolidation de notre bilan financier et les chiffres concrets sont contenus dans mon rapport écrit. Et je ne voudrais pas passer toute l'après-midi ici parce qu'on a passé à d'autres, à l'examen, à l'exercice d'autres choses dans notre congrès. Je vais couper court à ces exemples que je vous donnais. Mais du côté financier, pour y revenir, nous avons aussi fait des progrès importants. Nos caisses, la Caisse générale, la Caisse de défense, la Caisse de grève, sont nos fondations. So, sisters and brothers, as your National Secretary Treasurer...
Donc, comme secrétaire trésorier national, ma priorité était de consolider ces fondations. Nous avons amorcé un programme de placement. Et maintenant, nous pouvons compter sur une deuxième rentrée d'argent, nos revenus de placement. C'est un peu bizarre de parler de ça à un congrès syndical. Donc, c'est un nouveau revenu. Et je suis heureux de pouvoir vous en parler parce que ça amène de l'argent au syndicat. C'est aussi grâce à cela que nous avons beaucoup avancé dans le financement de nos obligations en matière d'avantages sociaux pour les employés. En comptabilité, la terminologie, c'est qu'on avait un passif qu'il fallait couvrir, donc on l'a fait. Bien sûr, la récession a limité nos revenus de placement et nous avons pris un peu de retard dans le financement de notre passif non capitalisé. Ce problème est abordé dans le rapport de nos syndics nationaux, mais nous avons l'intention de nous y attaquer dans le budget de 2010. Et c'est aussi pour ça que nous avons entrepris en 2002 un programme visant à acheter nos espaces à bureaux au lieu de les louer. Je suis fier et heureux de pouvoir vous dire que nous possédons maintenant beaucoup de nos édifices, la plupart. Je vais vous donner quelques chiffres et je suis heureux de cette tendance. Ce sont les nouvelles maisons de notre personnel et de nos militants dans 8 provinces. Je vous ai fait part en 2005 de l'achat de 5 édifices. En 2007, j'ai annoncé 3 autres édifices en plus de la construction de notre bureau national. Et au cours des 2 dernières années, nous avons entrepris 4 nouveaux projets de construction et nous avons acheté 3 édifices. Depuis 2002, nous nous sommes engagés aussi dans 5 locations achats au Québec. Donc, si on ajoute tout ça, quel est le chiffre global? Si vous m'avez bien écouté, vous devez pouvoir répondre. Alors? qui dit mieux. Six. Oui, hey, vous savez pas compter, là. C'est Julie qui a dit ça, six. On est rendu à 21. 21 propriétés, 21 initiatives qui représentent beaucoup plus que des bureaux et nous ancrent solidement dans la communauté. Et avec les quatre autres que nous possédions déjà, aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 25 édifices partout au Canada. Donc, la propriété plutôt que la location, ça nous économise de l'argent. En plus d'être les foyers du SCFP, ces bureaux représentent un actif immobilier, un actif que nous pouvons présenter à la banque si jamais nous avons besoin d'emprunter de l'argent, par exemple sur le fonds de grève. Mais pour le moment, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Mais si jamais on en avait besoin, ça pourrait être utile et servir parce que ça peut servir d'aval pour un prêt. Mais dans l'état actuel des choses, comme je le disais, nous possédons 60 millions de dollars d'actifs combinés. Il y a une douzaine d'années, nous n'avions pas un sou. On n'avait pas un sou rond. En fait, on avait même des dettes. On était dans le rouge, autrement dit. Donc, tout ça, ça veut dire que les membres du FCFP n'ont à s'inquiéter ni des indemnités de grève, ni de la capacité de son syndicat à riposter à la privatisation. Ou à lutter, pourquoi? Eh bien, pour la justice sociale, tout simplement. Et nous pouvons ainsi couvrir le fonds de défense ou autre. Et ça veut dire que nous avons davantage d'argent au niveau de la Caisse nationale de grève et dans la Caisse nationale de défense. La force financière croissante de nos opérations nous donne aussi une marge de manœuvre accrue pour notre militantisme. Notre investissement ne se limite pas à notre actif immobilier. Nous avons aussi commencé à vraiment investir dans ce que nous sommes. Comme je l'ai souligné, nous avons graduellement, mais substantiellement accru depuis quelques années le montant de l'action consacrée aux régions et aux campagnes, au militantisme et à l'action politique. En fait, lorsqu'on combine tout notre engagement financier, notre appui au militantisme a augmenté de près de 8 millions de dollars. Autrement dit, il a plus que quadruplé depuis 2001. Et même si notre effectif a augmenté de 15% et que nos revenus ont augmenté, eux, de 30% pendant la même période. On a quadruplé notre appui. Cela se voit et ça veut dire que le militantisme, c'est efficace. Ici même, au Québec, à Belleuil, en anglais dans le texte, juste au sud de Longueuil. Belleuil, Longueuil, ça rime. Joanne Gauthier, présidente de la section locale 4750 du SCFP, a été suspendue après avoir dénoncé un projet en PPP. Je ne sais pas si la consœur est là. En tout cas, elle a été réintégrée le lendemain. Et maintenant, le projet PPP est, comme on dit, sur la glace. Un PPP pour reconstruire un important échangeur d'autoroute ici à Montréal, pas très loin d'ici, a été largué parce que le gouvernement nous dit maintenant qu'il n'est plus possible d'en tirer des économies escomptées. En fait, je peux vous dire une chose, moi, c'est que les économies n'étaient pas là dès le départ. Alors, ça, c'est un bon travail. Et il y a un économiste qui nous a démonté tout le système et qui a prouvé que les économies n'étaient pas là. Et les PPP créés par le gouvernement Charest se sont désintégrés. Sonnant le glas d'un projet d'hôpital en PPP à Québec. Je ne sais pas si Mario est là, mais je tiens à le remercier ainsi que sa section locale pour le travail qu'ils ont fait. Pourquoi tout ça? Tout simplement à cause des membres du SCFP et de nos partenaires dans les coalitions qui ont riposté, qui sont passés à l'action. Oui, c'est vrai que la route peut être difficile de temps en temps. Prenez connaissance de notre projet d'orientation stratégique. Cette semaine, nous allons en débattre et nous l'améliorerons, ce projet stratégique, parce que c'est le document qui, en bout de ligne, déterminera pour ce plan d'action pour les deux prochaines années. Nous savons qu'au cours des deux années qui viennent de passer, nous avons pu accroître notre force politique. Et on peut maintenant commencer par investir en nous-mêmes. Ce n'est pas seulement des briques et du mortier, mais les briques et le mortier, c'est un symbole de ce que nous sommes, de ce que nous faisons avec l'argent qui est notre argent collectif, quand nous poussons sur le militantisme. Je tiens à remercier notre Conseil exécutif national pour son appui, ainsi que le personnel du Bureau national qui soutiennent mon travail et le personnel partout au pays qui appuie les organismes à charte du SCFP. Je veux remercier tout particulièrement notre président national, Paul Moest, pour son soutien et son amitié et pour les conseils qu'il a bien voulu me prodiguer au cours des deux dernières années. Merci. Merci beaucoup, Paul. Et en conclusion, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais fait ça. Je vous ai toujours parlé de l'état de nos finances et ce n'est pas quelque chose qui intervient du jour au lendemain. Il y a quelques 20 ans, deux leaders qui sont ici, vous me dites qu'ils ne sont pas là. Jeff Rose, il n'est plus là? Jean-Claude Laniel, on les a vus ce matin? Pour une fois en 22 ans, je suis prêt à les remercier et ils ne sont pas là. En tout cas, c'était nos deux grands chefs dans les années 80. Ah, voilà Jean-Claude. Bon, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils nous ont poussés, obligés à changer le fonctionnement du SCFP pour qu'on fonctionne en pourcentage. La transition a pris un grand bout de temps. Il a fallu près de 20 ans pour que ça marche correctement, pour que tout, réellement, ça prenne, ça marche. Mais c'est à eux qu'on leur doit. Alors, merci Jean-Claude, merci à mes deux confrères. Et ça, je tenais à le dire publiquement en congrès. Et en plus, je vous remercie, vous tous les membres. Merci de votre dévouement envers le SCFP et pour tout ce que vous faites jour après jour pour nous permettre d'avancer. Ça a l'air d'une formule toute gratuite, mais je sais très bien que ça se produit tous les jours. Et dans les deux prochaines années, vous allez continuer avec vigueur et confiance et nous relèverons efficacement les défis qui nous attendent. J'aimerais terminer aujourd'hui avec une image de la solidité de nos fondations. Une image, ça vaut 1 000 mots. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Après quelques 4 000 mots, en voici 20 000 mots. En voici 20 000 autres. Voici les divers foyers du SCFP partout au pays et nous en sommes tous propriétaires. Alors là, on y va. Faites tourner le film. Hey. C'est vrai que l'argent, ça parle. Alors maintenant, tout le monde au travail.
Thank you, Claude.
Merci, Claude. Claude nous propose l'adoption de son rapport. Y a-t-il quelqu'un pour l'appuyer? C'est dûment appuyé. Je donne la parole au délégué au micro 3. Je suis Bob Kritz, section locale 23. Il y a un problème au niveau des cartes de vote et j'aimerais demander à ce qu'on me remette une carte de vote, s'il vous plaît. Très bien, confrère. Nous allons en faire venir en avant. Quand elles seront là, on vous le dira. Et on va vous faire confiance. Merci. Au niveau du rapport du trésorier, micro 4, vous avez la parole. Section locale 4207, Sainte-Catherine, Ontario. Merci, confrère généreux, de votre excellent rapport. Mais j'aimerais revenir sur un point du budget avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord. L'an dernier, donc, le budget était autour de 160 millions de dollars. Et compte tenu de votre rapport, si j'ai bien compris, il y a 1,5 million qui est allé à l'organisation, au recrutement, ce qui représente moins de 1% du budget. Les autres syndicats, ici au Canada, dépensent facilement 25 à 50% de leurs fonds au recrutement. Et il y a des tas de gens qui devraient être membres du SCFP et qui ne le sont pas. On dit aussi que nos efforts d'organisation consistent à recruter tous azimuts, par exemple, dans le domaine de la santé et des soins de longue durée. Si vraiment le syndicat national a cette stratégie, pourquoi n'avons-nous plus de recruteurs dans le secteur des universités en Ontario. Je crois que le syndicat, pour faire preuve de dynamisme et pour être véritablement orienté vers l'action sociale, devrait dépenser davantage en recrutement et organisation. Nous n'avons que 6 permanents qui s'en occupent. C'est quelque part, je crois, la page 32, 6 permanents qui s'occupent de recrutement et organisation en région. Je crois que quand la résolution nous sera présentée, il faudra faire un effort en matière d'organisation pour que le syndicat aille chercher de nouveaux membres, dépense davantage. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dépenser de l'ordre de 10% de notre budget annuel. Merci, confrère.
Comme nous l'avons fait lors de l'autre congrès, alors Claude prend vos questions en note, il y répondra plus tard. Monsieur Hurley, vice-président pour l'Ontario, merci Claude pour ce rapport. Et je vous remercie tout particulièrement d'avoir mis sur pied le fonds de lutte dans le fonds d'exploitation du syndicat, le fonds de riposte. Vous savez que la dernière fois, au dernier congrès, nous avions terminé sur une note un peu amère où on parlait de restreindre l'accès lorsqu'il y avait des grèves par rapport à des législations. Il y a eu beaucoup de colère à ce moment-là. Les gens étaient fâchés par rapport les uns aux autres et notamment contre l'Ontario. Alors, on a eu notre rôle à jouer là-dedans. Mais vous avez trouvé une solution très constructive à ce problème, Claude. Et je sais qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, alors que les gouvernements provinciaux vont vouloir miner les programmes et vont tenter de réduire leur budget, eh bien, ça fait preuve de sagesse que de créer ce fonds et je vous remercie de l'avoir créé. Alors, merci. Micro numéro 6.
Micro 3. J'aimerais demander une question à Claude. J'aimerais demander une question à Claude. Adresse à la page 54 de ton rapport. On parle qu'on a un fonds d'investi de 21,4 millions. Mais on parle qu'on a des actions dans ce fonds-là. Est-ce que pourrait nous expliquer pourquoi qu'on a des actions? Si c'est le plan de pension de nos employés, c'est correct, mais si c'est de l'argent qui appartient à notre syndicat, pourquoi qu'on aurait notre argent à risque? Puis en regardant les résultats, on a perdu à peu près 24%. J'aimerais donner une explication pourquoi on investit dans des actions sur la bourse.
Thank you, brother. We'll get...
Merci, confrère. On va répondre à cette question. Il y a 7 intervenants. Lorsque toutes les questions auront été posées, Claude répondra.
Sur et mes frères à Montréal, merci pour votre hospitalité, mais maintenant en anglais. Tim McGuire, QP Local 79, City of
Toronto. Je viens de la ville de Toronto, de services municipaux, Monsieur McGuire. Et vous savez que vous avez souligné à plusieurs reprises que l'argent a du poids. Et souvent, c'est l'argent qu'on en parle beaucoup pour les campagnes, pour les fonds de grève, pour les différents autres moments. Mais j'aimerais remercier les gens de partout au pays, parce que vous savez que nous sommes près de 600 000 confrères consoeurs et pour l'appui dont ils ont fait preuve pendant la grève la plus récente. Parce que vous savez, c'est très important, surtout lorsqu'on doit lutter contre ces employeurs qui veulent miner, attaquer ce qu'on a obtenu dans nos conventions collectives, parce qu'ils se servent de l'excuse de la récession. Alors, on est bien conscient de ce que c'est que la récession et on gardera ça à l'esprit lors des négociations. Mais là, ce qu'on nous avait proposé ici, ça n'a rien à voir avec la récession, c'est un employeur qui se servait de la récession pour essayer de nous enlever un avantage important, de sortir ça d'un côté, de replacer ça de l'autre. Mais on comprend aussi non seulement la récession, mais on comprend très bien qu'on doit travailler en coalition. Il faut travailler avec les politiciens, surtout les politiciens qui semblent parler le même langage que nous. On comprend qu'il faut faire ça pendant les campagnes électorales et aux autres moments. On n'obtient pas toujours ce que l'on souhaite, mais on doit travailler avec les autres pour progresser. Mais il est de plus en plus important que les fonds, les ressources soient mises ensemble pour lutter contre ça. Que ce soit un conservateur ennemi ou que ce soit quelqu'un avec qui on a travaillé main dans la main par le passé, il ne faut pas qu'il suppose que c'est ce qu'il y a de mieux pour les membres. Et ne prenez pas pour acquis l'argent qui a été mis de côté par les 600 000 membres tout au long de ces années. Alors, merci. Alors, on poursuit dans l'ordre. Là, c'est le micro numéro 3. Bonjour, Gaetano Franco. Je suis délégué syndical, section locale 2. D'abord, je suis très fière. C'est mon premier congrès. Je suis très fière de faire partie de ce syndicat. Et je voulais m'adresser au Conseil national par rapport à un problème que j'ai vu. Ça fait 13 ans que je suis membre du syndicat et c'est un problème qu'on voit entre nous. J'ai vu trop d'exemples de membres de sections locales qui n'agissent pas toujours comme de bons syndiqués. J'en ai vu parfois qui ont traversé les lignes de piquetage, qui se sont placés du côté des employeurs. Et j'en ai parlé au président de section locale et à d'autres présidents ici. Et ils semblent se sentir un peu... Ils n'ont pas de pouvoir par rapport à ces... dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que pense le Conseil national de ça? Et est-ce que nos présidents de section locale vont avoir plus de pouvoir pour remédier à cet énorme problème? Merci, confrère. Écoutez, je vais vérifier parce que Claude va répondre à toutes les questions. Là, il y a encore un intervenant, micro 4, 5, 6, au micro 1. Après ça, M. Généreux va répondre. Voilà, Sanderson, 1521, Services sociaux de l'Ontario. À la page 40 du rapport pour le Fonds général, quelques questions. 3,5 millions de dollars de revenus per capita, ça a été le dépassement, ça c'est à 2,5%. Et sous la rubrique dépenses, c'est 453 dollars. En tout, ça nous amène à 4 millions de dollars. Et avant que je ne pose ma question, je vois que sous l'anti-improvisation, il y a aussi une somme d'argent qui n'avait pas été dépensée, qui va être envoyée au programme d'équité au cours de l'année à venir. Et je me demande si cet argent-là va être ajouté aux 2,5 millions ou si le 2,5 millions va être réduit. Par exemple, est-ce qu'on va augmenter la quantité que nous avons besoin dans le fonds pour lutter contre la privatisation? Et il y a, pour les honoraires professionnels, il y a 49,5% de plus que ce que le prévoyait le budget. Alors, je me demandais, est-ce que ça a été réglé? Merci, Steve. Alors, on pose toujours des questions plus difficiles à Claude que moi. Numéro 5, M. Springer de l'Université de Victoria, local 951. J'aimerais vous parler de ce qui est arrivé au cours des dernières années. Le national est venu à l'aide de nos trois sections locales chez nous. L'automne dernier, les trois sections locales de UVEC et celui de Royal Rose voulaient créer une conférence portant sur le respect. Alors, on avait décidé d'inviter les spécialistes de l'intimidation et Barbara Coloroso, qui sont donc des experts en la matière. Alors, on a puisé dans nos propres fonds et on a créé des ateliers pour les sections locales de l'île de Vancouver. Et nous avons aussi organisé des soirées à l'intention des membres de la communauté pour que les gens comprennent pourquoi il faut lutter contre le harcèlement et l'intimidation. Mais on ne pensait pas que la valeur du dollar canadien allait baisser autant. Étant donné que nous avions invité deux conférenciers américains, on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas se payer des ateliers. Mais Claude et le bureau ont dit, écoutez, même si le national, habituellement, n'intervient pas dans ces conférences régionales, ils sont intervenus. Et il est même venu prendre la parole. Il a présenté le Dr. Namy. Les gens ont énormément parlé de nous dans les médias. Le fait qu'un responsable du groupe national vienne prendre la parole à ce genre de congrès dans une petite région comme la nôtre, ça a eu beaucoup de répercussions. Et cette conférence a eu lieu l'an dernier. Bien sûr, l'intimidation, le harcèlement, ça se poursuit dans nos régions et ailleurs. Mais en 2007, lors du 2007 dans le Congrès, on vous avait dit que nous avions, pendant la période de négociation, demandé d'avoir un plan qu'on pourrait gérer conjointement avec l'employeur. Mais on s'est aperçu que l'employeur avait une vision différente de ce programme et on est en arbitrage depuis un bon moment à ce sujet-là avec les surintendants et tout ça. Et ça coûte très cher à l'employeur parce que l'employeur est disposé à perdre beaucoup d'argent pour briser le syndicat et pour montrer aux gens du SCFP qu'ils n'ont pas besoin de ces genres de régimes de retraite et tout ça. Et grâce à l'aide de Claude et du service juridique, on a été capable de remporter une partie de la bataille. Écoutez, on n'aurait rien remporté si ça n'avait pas été de leur aide. Mais on est capable de dire à nos membres que ce qu'ils veulent, le mal qu'ils veulent nous faire, ils ne sont pas capables parce que le SCFP est derrière nous pour nous appuyer. Merci, délégué. Vous êtes très patient. Il reste trois dernières interventions avant que le confrère Claude ne réponde. Maurice, le local 38 à Calgary. Ce syndicat parle beaucoup d'égalité, mais nous devons avoir de l'égalité par rapport aux frais per capita de ce syndicat. Vous savez que nous avons hérité de beaucoup de points constitutionnels qui permettent à certains groupes d'avoir des taux mieux que d'autres, mais vous savez que la plupart d'entre nous, on a une structure per capita qui fonctionne avec des pourcentages, mais on remercie les confrères Laniel et Rose d'avoir mis sur pied ces mesures-là. Mais il y a d'autres groupes où ils payent à des montants forfaitaires et ça se poursuit même lorsque la section locale doit soumettre des preuves qu'ils sont autonomes sur le but des cotisations, mais continuent d'avoir un système de partage des frais. Alors, j'aimerais rappeler au Conseil que lorsqu'ils sont nommés, qu'ils doivent s'en tenir aux principes contenus dans les statuts. Alors, on continue de donner de l'argent à on continue de donner de l'argent à ces sections locales qui ne se conforment pas. Si là, on sent que les autres sont lésés. D'accord. Le numéro 1, ensuite le numéro 6, Mike Ancon, SCFP. Colombie-Britannique. Merci, confrère généreux. Je suis moi-même secrétaire trésorier. Et pour moi, c'est le summum du congrès que de vous entendre. Alors, je vous remercie, vous et votre personnel. Je sais aussi, en tant qu'au comité, au conseil exécutif, je veux dire que les rapports que nous recevons à ce niveau-là, ainsi qu'ici au congrès, c'est super. Tout est transparent. Et c'est ça que les membres veulent savoir. Moi, en Colombie-Britannique, lorsque je soumets les états financiers, les gens veulent voir les vrais chiffres. Ils veulent la vérité. C'est bon, c'est mauvais. Mais on regarde ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Alors, écoutez, on est passé de 40 millions à 21 millions en peu de temps. Et c'est la Colombie-Britannique qui avait déposé une résolution lors des congrès précédents à savoir qu'est-ce qu'on allait faire lorsque notre fonds de grève atteignait, par exemple, ces niveaux-là. Alors, on est passé de 40 millions à 21 millions. Mais on n'avait pas soumis cette résolution. Alors, c'est étonnant la taille de nos actions locales, des structures que nous avons. Alors, par exemple, en Colombie-Britannique, dans certains endroits, on peut se retrouver avec 25 000 membre dans le domaine de l'éducation. Et là, ça coûte, ça exerce beaucoup de pression sur nos fonds de grève. Entre autres, il y a une augmentation des frais, par exemple, pour les passes de vol. Je sais que c'est très important pour le national. Ça vaut à peu près 1 million de dollars. C'est aussi très important pour nous en Colombie-Britannique et pour plusieurs secteurs locaux. On a acheté des passes de vol et on les a mis à la disposition des sections locales pour qu'ils s'en servent pour venir, par exemple, à des congrès comme celui-ci. Ça nous a permis de faire des épargnes. Au cours des prochaines années, on a plein de défis à relever. Les négociations, ce ne sera pas facile. C'est évident qu'il y aura d'autres grèves. Mais on est dans une position solide pour de nombreuses raisons. Entre autres, et Claude, vous avez fait référence, pour ce qui est des édifices, on a vu les images de ces édifices. Alors, non seulement on achète le terrain et l'édifice en tant que tel, mais on le bâtit d'une façon qui respecte l'environnement. Et ce qui est le plus important, lorsqu'on procède à la construction, c'est qu'on fait appel à des gens de corps et métiers syndiqués. Et ce n'est pas que ces édifices, c'est très beau, les photos, les images que vous avez montrées, mais l'important, c'est ce qui se déroule à l'intérieur des édifices et ce qui se passe dans les différentes communautés de partout. Vous avez parlé du budget pour l'action politique qui est disponible pour les conseils et les divisions. Il ne suffit pas de recevoir de l'argent et de ne pas le dépenser, mais cet argent-là, ça sert aux communications, à la traduction de tous ces documents. Ça aide à préparer, par exemple, des rapports portant sur les 3P. Et vous savez que les élections provinciales, ça s'est déroulé récemment chez nous en Colombie-Britannique. Bon, vous savez que les élections, vous rappelez, on était en grève à Vancouver, le dernier congrès, Sam Simon était le maire. On a utilisé toutes nos ressources et on s'est débarrassé du maire qui était en poste et de tous ses conseillers. De M. Sam Sullivan. Alors, dernière question, micro 6.
Votre rapport, je suis contente d'apprendre qu'à bien des égards, les finances de notre syndicat vont bien, mais je crois déceler une bémol et je veux attirer votre attention là-dessus et j'aurai une question à cet égard-là. J'ai regardé le rapport des syndics nationaux qui nous disent à la première page de leur rapport qu'en date du 31 décembre 2008, nous avions, sur le passif des titres aux obligations accumulées, un total de 135 915 000 $. Et il disait que vous aviez tenté de rectifier la situation dans le dernier budget, mais sans succès. Et il y avait une recommandation des syndics qui dit que les syndics nationaux recommandent que le Conseil exécutif national élabore une nouvelle stratégie visant à capitaliser entièrement les obligations accumulées d'ici 2029. Depuis ce rapport-là, est-ce qu'il y a eu un plan établi et quel est l'objectif pour rencontrer ces obligations-là?
Thank you very much, sister.
Alors, confrère Claude, les syndics, c'est vous qui avez la parole après et ensuite c'est notre autre comité qui prend la parole, mais d'abord le confrère Claude. Ah, ça c'est la partie la plus le fun pour moi. Là, vraiment, je continue d'être franc et honnête avec vous. Si vous trouvez que je suis à côté de la traque, ne soyez pas gêné, dites-le-moi. De toute façon, Paul veut passer à d'autres sujets, mais dites-le-moi et je vais me reprendre si jamais je suis pas dedans, là, mais... Alors, je vais y aller par les dernières questions, puis je vais remonter parce que ça, on vient de me les poser. Alors, Micro 6, consoeur, nous a demandé, mais quel est notre plan, parce que je vous avais fait part des avantages, des actifs non remboursés. Alors, écoutez, ce serait une longue histoire, mais... J'ai pas besoin de vous... Ben, je vais vous faire un petit résumé. On voulait faire appel à des spécialistes financiers de l'extérieur qui nous aideraient et qui ne chercheraient pas à nous vendre des services financiers. Parce qu'on sait qu'ailleurs, ça causait des ennuis. Mais on savait que si on faisait rien, cette obligation qui avait été négociée de toute bonne foi avec notre personnel au cours des années. On a fait ça de bonne foi, mais là, on pourrait se retrouver avec des problèmes, et avec des problèmes d'argent de ce côté-là, comme je le dis plus tôt. Alors, on fonctionnait avec l'encaisse, les gens quittaient, et ensuite on trouvait l'argent pour payer ça le jour même. Alors, notre confrère Paul a établi un programme pour rembourser ça au fil du temps. Alors, on a été capable d'inscrire ça dans notre budget à partir de 2005. Depuis 2005, on a pu mettre une somme de 7 millions de dollars qui est investie. Ça vaut maintenant 16 millions de dollars, ce 7 millions qu'on avait investi. Alors, il y a d'autres détails, là, mais quelles sont donc nos obligations? Je vous ai parlé du 166 millions de dollars de nos trois fonds. Je vous ai parlé du petit fonds de la justice globale. Mais on a en fait 800 millions de dollars. Il y a aussi un régime de retraite qui est inscrit dans différents livres. Ça, c'est 400 millions de dollars. Et ces avantages représentent, si vous savez, si on n'avait rien fait, lorsqu'on a amorcé ça il y a 5 ans, ça vaudrait 258 millions d'ici l'an 2012. Et c'est pas si loin. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. On voulait pouvoir vérifier notre progrès. Parce qu'on était légèrement en retard. Les syndics l'avaient noté. Alors, ils ont dit, mais écoute, après 5 ans, ce serait bien d'établir un nouveau programme pour que ça puisse s'autofinancer sur de 20 ans. Quelque chose qui pourra vous être favorable à tous les ans. Alors, ce sera un programme étalé sur 20 ans. Et c'est quelque chose, bien sûr, qu'on passe en revue régulièrement. On va le faire en 2010. Et là, on va mettre à chaque année un demi-million de nouvel argent. Ça vient s'ajouter à ce qui a déjà été investi. Alors, depuis 2005, on dépose 500 000 $. Alors, la deuxième année, ça veut donc dire qu'on avait 1 million, ensuite 1 million et demi. Etc. Il faut faire le calcul. C'est ce que le conseiller nous a posé comme question. Et pour ne pas se retrouver dans une crise, pour pas que les autres plus tard se retrouvent avec ce problème-là, et on s'est dit, il faut pousser les choses plus à fond, et c'est ce qu'on fait. Et là, l'exercice budgétaire va, c'est ce qu'on propose, et on suppose que le Conseil national va accepter, mais on va, disons, y aller un petit peu plus vite. Alors, ça, c'était la question de notre consoeur Micro 6. Mais c'est quelque chose, une situation qui est complexe. Eh bien, ici, écoutez, j'avais comme 1 ou 2 minutes pour essayer de vous répondre, là. Et ensuite, Mark Hancock nous a parlé du fonds de grève et des passes de vol aérien. Bon, écoutez, les passes de vol aérien, c'était très favorable pour nous. Et j'ai dit à nos membres, surtout des composantes d'Air Canada, vous savez, on sait que c'est pas facile pour les membres du SCFP qui sont chez Air Canada. En tant que client, on nous a dit, bon, les passes de vol, c'est super pour les clients, mais pas pour Air Canada. Alors, ils vont discontinuer ça. Alors, pour nous, ça veut dire que ça va nous coûter 1 million de dollars de plus. On va être obligé de dépenser plus pour les vols d'avion que ce qu'on aimerait. Mais écoutez, là, on n'a pas le choix. On ne pourra pas faire d'économie. Alors, c'est 1 million de dollars qui va aller là plutôt que d'aller dans d'autres services. Pour ce qui est de l'édifice, merci à Marc de m'avoir rappelé ça, parce que je ne vous en avais pas parlé, mais bien sûr, on a embauché des gens syndiqués. Et à Fredericton, Paul et moi, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, il y a le bureau régional de l'Atlantique qui est ouvert à Fredericton, et l'entrepreneur était là. Vous l'aurez dû le voir. Alors, à chaque fois qu'on le remerciait, et on dirait qu'il grandissait tellement il était fier. Alors, c'est. Alors, nous, on est la troisième plus vieille compagnie, presque, groupe au Canada, et il était très fier de travailler pour nous. Alors, une autre personne nous a parti de ces sections locales qui ont encore des montants fixes. Alors, quand Peter déposant une injonction disant pour qu'on puisse aller de l'avant. Écoutez, je sais qu'il y a des résolutions sur cet effet dans le manuel. On va les regarder. Les deux comités vont regarder ça. Ça ne va pas être traité par mon rapport. Écoutez, c'est une décision. Les gens vont se prononcer, oui ou non. Les gens décident ça. C'est au sujet de l'autonomie des sections locales et jusqu'à quel point il faut aller. Mais ça, écoutez, c'est un débat qui devra se dérouler à l'endroit approprié. Micro 4, il y avait Steve Sanderson, 1521. Il nous a parlé, il nous a posé des questions sur du surplus. Alors, vous avez en fait 2 questions et les réponses sont oui et oui. D'abord, est-ce qu'il y a un surplus de 4 millions et est-ce que ça veut dire qu'une partie de ce surplus, c'était de l'argent pour le fonds contre l'anti-privatisation. Mais la première année, ça n'a pas tout été dépensé parce que c'était la première année tout de suite après le congrès de 2007. C'était tout nouveau, alors on n'a pas tout dépensé. Alors, en février, le conseil s'est regroupé afin de savoir comment ils allaient le dépenser, sur quoi. On a dit que c'était juste contre la privatisation et on allait travailler ensemble. La première année, c'est un petit peu plus lent là, parce qu'il fallait démarrer le projet. Mais là, on a décidé qu'on allait affecter cette somme d'argent-là. Et Steven a bien gardé ça. Oui, c'est un argent qui a été prévu et qui va s'ajouter aux 2,5 en 2009. Oui, je vous vois, vous êtes là. Alors, en 2009, ça va être 2,5 plus le 400. Alors, Paul, un petit peu plus tard, va vous en reparler. On va parler des énormes des campagnes très importantes qu'on pourra faire ensemble. Écoutez, je ne veux pas parler trop longtemps, là, mais une autre question au sujet des honoraires juridiques, on a peut-être trop dépensé. Mais écoutez, il y avait une situation particulière en Colombie-Britannique. Il y a eu des gens qui ont été malades, d'autres qui ont pris leur retraite. Tout est arrivé en même temps et c'était difficile de recruter les gens, et ce qui explique ce problème de financement. Est-ce que ça a été résolu? Je le crois bien, oui. Ça, c'était une autre question. Ensuite, au micro 2, c'était notre confrère Cormier, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, vous avez posé une question sur la page 54 à partir des pertes et des actifs. Au 9.3 des statuts, on explique comment on peut dépenser, que le comité national et le conseil national exécutif... les rôles qu'ils ont à jouer. C'est quand même un rôle limité. En général, on investit dans des obligations. Alors, pour revenir à votre question de M. Cormier, ces 5 millions d'actions, c'est une plus petite portion d'une autre 10 millions que nous avons d'obligations. En général, on investit le gros dans les obligations. Ce 5 millions est investi par les mêmes gestionnaires de fonds qui gèrent notre régime de retraite. Il faut dire qu'ils ont été fantastiques. Ce sont les meilleurs au Canada depuis les 8 dernières années. Ce sont des gens très prudents. Alors, pour revenir à votre question, c'est évident, en 2008, écoutez, tout a baissé. Ça a touché même nos investissements. On s'attend à ce que ça remonte. Mais en vertu des statuts, on ne peut être imprudent. On peut pas, on joue pas au casino ici. On n'est pas des Donald Trump. Alors, soyez rassurés. Ça, c'est peut-être le pire qui peut arriver, là, c'est ça, parce que ça a baissé un petit peu partout. Mais on ne prend pas de risque. On se fie au statut 10 millions en obligations. Et ça, c'est des actions. Et elles ont déjà remonté, ça, je peux vous le dire. Alors, voilà.
Puis pour finir, il y avait confrère de Sainte-Catherine, microphone 4. Il y a toujours un peu de confusion, je dois dire, la façon qu'on comptabilise l'organisation. Donc, on a, et comme le confrère a montré à la page 32, on a 6 permanents recruteurs, et ce sont des permanents qui recrutent et sont dans les services sociaux. Mais ça ne tient compte pas. Ça ne tient pas compte de plein d'autres organismes dans d'autres bureaux. On en a à Québec, mais ils ne sont pas comptabilisés à Québec, mais dans la région seulement. On en a en Ontario, etc., dans toutes les provinces. Et en plus de ces 6-là et tous les recruteurs qu'on a dans le Fonds général, qui sont là avec les autres conseillers. C'est 2 millions de dollars par an. C'est en plus des 6 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup plus que juste les 6 millions de dollars. Est-ce que c'est seulement 1,8 million? Non. Est-ce que je suis sur la défensive? Non. C'est juste 25 %. Mettons, SEU aux États-Unis, ils mettent 20 %. Mais c'est un autre environnement. C'est un désert. Regarde, vas-y dehors, essaye de recruter. C'est très difficile. Mais quand vous recrutez, vous devez fournir des services également. Alors, je ne suis pas là pour descendre les autres. Mais il y a des syndicats qui n'ont pas de succès à maintenir et retenir les membres. Il y en a d'autres qui ne retiennent pas. Mais ici, nous, chez SCPP, on a 100 % de taux de retenue des membres. Et on a augmenté le budget de 1,8 à 1,9 et ensuite à 2 millions. Alors voilà, parce que ça prend de l'argent, ça prend de l'action. Alors je veux que vous sachiez qu'on s'occupe de tout ça et on espère le faire à votre satisfaction. Merci. Merci beaucoup, Claude. Alors, la motion devant l'Assemblée, c'est d'adopter le rapport verbal et écrit du secrétaire trésorier. Proposé et appuyé. Signifiez, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Baissez les mains. Sont contre. C'est adopté et sera ordonné ainsi. Alors, merci.
Cette balado-diffusion a été réalisée au Congrès national 2009 du SCFP.